BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde avec Jean-Christophe Floquin, rédacteur en chef dans le quotidien La Croix. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fabrice.
Jean-Christophe Floquin qui anime le blog Paris Planète, hébergé sur le site de La Croix. Pierre Servan est avec nous, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Pierre Servan, le spécialiste du militaire. Alors on le rappelle encore, hein, ce roman que vous avez fait paraître au mois de décembre, Le Testament Holique. Alors grosse actualité internationale. On va évidemment revenir sur cette inquiétude, hein, la stupéfaction donc après la signature des décrets anti-immigrés, anti-réfugiés de Donald Trump, colère dans le monde, en Europe, aux États-Unis même, avec un vent de fronde, et notamment venu du monde du business, qui pourtant avait soutenu donc le président américain. Mais la semaine, elle a été aussi marquée par les premières déclarations, les premières actions américaines sur le terrain militaire. On reviendra dans un instant, évidemment, sur cette attaque contre des positions d'Al-Qaïda au Yémen. Et puis, ce déplacement au Japon et en Corée du Sud, du général James Mattis, qui est maintenant le secrétaire à la Défense, qui à Séoul s'est voulu rassurant en cas d'attaque nucléaire nord-coréenne.
Toute attaque contre les États-Unis ou contre nos alliés sera vaincue et toute utilisation d'armes nucléaires rencontrera une réponse efficace et écrasante.
Voilà, même message rassurant à destination du Japon, de Tokyo. Hein. Les États-Unis sont à 100% aux côtés du Japon, disait-il vendredi matin. Pierre Servan, il y avait un doute en effet dans la tête des alliés japonais et coréens que les États-Unis n'interviennent pas au cas où justement. C'était important d'ailleurs que le premier déplacement d'un haut responsable américain de l'administration Trump soit là, soit à Tokyo et à Séoul.
Oui, bien sûr, parce que ce sont des zones stratégiques. Il y a bien sûr la menace de la Corée du Nord avec cette menace nucléaire, mais il y a aussi tout le jeu de la Chine, qui est très ouverte à Davos, qui donne des leçons d'ouverture sur le plan économique, on sait très bien, mais qui, sur le plan de la politique de défense, a des postures très offensives en mer de Chine méridionale. Et, pardonnez-moi l'expression, mais ça fiche la trouille à tout le monde dans la zone.
Donc, d'autant plus qu'ils se réarment avec un second porte-avions. Ils ont également testé un missile portant 10 têtes nucléaires. C'était il y a quelques jours, tout ça.
Oui, absolument. Et alors, le problème, c'est qu'on se demande si les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de Donald Trump vont devoir passer une partie de leur temps à courir derrière les déclarations de Donald Trump, qui fait ça comme s'il prenait son café le matin en balançant un peu des pétards à droite et à gauche. Et il a autour de lui des professionnels. On a un peu moqué Rex Tillerson en disant « c'est le patron d'Exxon, c'est un pétrolier ». On a en France des grands pétroliers, il y en a un qui est décédé, comme M. Marjorie. Ce sont des personnages qui connaissent les questions internationales, qui sont au contact des grands décideurs et qui ont une expérience. Donc il était important de le faire. Mais le problème, c'est qu'en quelques semaines, j'ai fait le compte comme ça, pas pour m'amuser parce que c'est pas amusant, mais Donald Trump est parvenu à se mettre à dos au moins une quarantaine de pays. Ouais. Si vous voyez les attaques contre l'Union européenne, ouais, 27 pays, ouais, les 7 qui sont interdits de séjour aux États-Unis, ouais, le Mexique, ouais, l'Australie, ouais, la Chine, ouais, bon, il y a encore quelques-uns derrière, il y a que 193 pays à l'ONU. À mon avis, il va rapidement se mettre à dos la planète entière s'il continue à ce rythme-là. Et Mattis, Tillerson, Flynn, qui est le patron de la sécurité nationale américaine, eh bien, ils vont devoir derrière, je dirais, mouliner pour attraper les coups.
Ils vont mouliner à moins, Jean-Christophe Ploquin, que ce beau monde, Mattis, Tillerson et autres, soient des contre-pouvoirs finalement à Donald Trump.
Alors c'est ce qu'on va voir effectivement dans les jours à venir. Il y a aussi le vice-président qui vient bientôt en Europe, Mike Pence, qui va rencontrer et faire passer des messages. Il a déjà fait passer un message à son homologue allemand, enfin au ministre allemand des Affaires étrangères, qui a dit, en lui disant, l'OTAN c'est du sérieux et les États-Unis seront à fond derrière l'OTAN. Donc on est quand même un peu dans une séquence où on voit petit à petit effectivement, je dirais, les professionnels de la diplomatie, des professionnels de l'économie, apporter un petit peu, tempérer en quelque sorte les tweets de Donald Trump. On est un peu dans cette séquence. Est-ce que Donald Trump va renoncer à son style? Probablement pas. Mais comment est-ce que ça va se jouer entre son style et les réalités géopolitiques? C'est vraiment l'enjeu des prochains jours.
Alors, interventionnisme ou pas, on a parlé de cette zone qui bouillonne, qui est l'Asie, justement, le côté Pacifique en Asie. Du côté de l'OTAN, tiens, est-ce qu'on y voit plus clair quand même? même Pierre Servent. Je vais rappeler quand même les épisodes précédents, pendant la campagne et au tout début de son mandat. Donald Trump qui juge obsolète l'OTAN contre l'avis de ses ministres, les ministres dont on vient de parler. Comme Barack Obama, il pousse les pays européens à faire davantage en matière de défense militaire. Et puis le week-end dernier, c'est Theresa May, donc, qui était reçue à Washington, qui soulignait que Trump était à 100% derrière l'OTAN. Ça veut dire quoi en cas de coup dur avec la Russie? Tiens, par exemple, Pierre Servent, les États-Unis, ils interviendront en Europe?
Je ne sais pas. Ouais. Non, je veux dire, attendez, c'est quand même absolument extraordinaire le flux de déclarations. Quand il a reçu Theresa May, en sa présence, il a quand même à nouveau fait une déclaration en faveur de la torture. Mmh. Il en avait déjà fait. Il était revenu dessus parce que son ministre de la Défense lui avait expliqué que c'était un peu moralement, ça posait des problèmes, mais qu'en plus ça servait à rien. Quand il avait dit à travers une boutade une formule pas très à droite en disant avec de la bière et des cigarettes j'arrive à retourner les champs. Sauf qu'à mon avis avec les combattants d'Al-Qaïda et de Daesh, il vaudrait mieux qu'ils trouvent d'autres choses, des dates et du thé, mais pas ça. Bon, donc apparemment le président américain avait eu l'air de changer de position en disant bah tiens bon, peut-être la torture c'est pas si bon. Là il a remis ça sur le tapis. Donc encore une fois comment, au final, les actions américaines vont être décidées, sachant que Donald Trump ne changera pas de logiciel, il n'en changera pas parce qu'il est convaincu que c'est ce logiciel instinctif, pas intellectuel, qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Et par ailleurs, le point qui m'inquiète énormément, c'est quand on voit la composition du Conseil national de sécurité autour de lui, il a écarté des membres permanents qui sont importants, le chef des renseignements, des différentes agences de renseignement, le chef d'état-major des armées, qui ne sont plus membres permanent pour mettre Steve Bannon qui est un idéologue. Et ça, ce qui est inquiétant, parce que dans l'histoire, quand vous substituez à la compétence l'idéologie, il y a vraiment, on est sur un toboggan, et avec le nombre de crises, de tensions dans le monde, c'est pour ça que je ne suis pas capable de répondre à votre question.
Donc on ne peut pas prétendre, Jean-Christophe, est-ce que les États-Unis sont toujours le gendarme du monde?
Est-ce qu'ils sont toujours les gendarmes du monde? Effectivement, la logique de Donald Trump, c'est de dire nous ne serons plus les gendarmes du monde. Et donc, lui, sans doute qu'il est fidèle à cette vision. On entend, quand on continue à aller des journalistes qui vont dans les zones qui ont voté très largement Trump, on voit que cette population américaine-là est toujours très derrière Trump et donc derrière cette vision. Cela dit, moi, ce qui me frappe quand même depuis une semaine, c'est tous les petits messages, tous les messages quand même en même temps de gens de l'administration à des niveaux importants qu'il a lui-même nommé. L'ambassadrice à l'ONU qui dit, la Russie, c'est effectivement
qui parle d'action agressive de Moscou,
exactement.
À propos de l'Ukraine sur lequel on reviendra.
Donc là, on a quand même un recadrage presque du président.
Et distance aussi avec Israël, pourtant grand allié donc de Trump, justement, et c'était jeudi soir. La Maison Blanche qui dit la construction de nouvelles colonies dans les territoires palestiniens pourrait ne pas aider à résoudre le conflit israélo-palestinien. Je voudrais qu'on s'attarde quand même sur deux points quand même. Je parlais de la première action militaire de l'ère Trump, le Yémen, c'était en début de semaine, donc opération de troupes spéciales doublée de bombardements, donc d'un raid visant Al-Qaïda. Il y a eu 40 combattants de l'organisation terroriste qui ont été tués, mais pas que, une vingtaine de civils, des femmes, des enfants. Première opération militaire de l'ère Trump, fiasco ou pas, Pierre Servent?
Alors je ne dirais pas ça, parce qu'effectivement il y a un Navy SEAL qui a été tué.
Ah oui, d'accord, aussi.
Du côté américain.
D'accord, donc un... okay.
Et visiblement c'est une opération qui a été montée avant.
Sous Obama, d'accord.
Voilà, sous Obama.
D'accord.
Alors, quel est dans le réglage l'implication de Trump? Parce que cette opération est un peu en rupture avec les précédentes, où c'était surtout des frappes par drone, pas de troupes au sol,
bien sûr, d'opération spéciale.
Avec des commandos impliqués. Donc là ça a été fait de cette façon, c'est nouveau, ça n'est pas un fiasco, mais la question qui se pose, c'est dans le déroulement de l'opération, dans le mode opératoire, est-ce que Trump veut se rapprocher de Moscou? C'est-à-dire le moins possible d'encadrement et de gêne dans la volonté de protéger les populations, qui effectivement, pour les démocraties, au combat, c'est un véritable handicap. C'est un handicap noble, mais c'est un vrai handicap. Là, on a vu qu'il n'avait pas hésité à frapper, il y a effectivement eu des enfants qui ont été touchés. Donc la question, c'est, est-ce que cette opération a été prévue? Elle est un peu nouvelle dans le mode opératoire, et est-ce que ce gouvernement-là va chercher à s'affranchir des règles habituelles de faire attention à protéger les populations civiles dans ces opérations?
Je comprends encore une question également. Que penser du test par l'Iran c'était en début de semaine également, d'un missile de taille moyenne, hein, donc portée de 300 km à peu près, qui a donné lieu à une vive réaction de Washington. Est-ce que les États-Unis vont s'en servir pour dénoncer l'accord nucléaire avec l'Iran? A priori, ça n'a pas forcément grand-chose à voir. Mais est-ce que l'Iran, en même temps, ne vient pas tester l'administration américaine?
Si, c'est tout à fait... Ouais. C'est-à-dire, comment dirais-je, c'est très intéressant. Trump, pour moi, c'est un peu les États-Unis, c'est le pays dont le prince est un enfant. Donc, c'est bon. Et un enfant surpuissant, un enfant en toute puissance. Et il ne comprend pas pour l'instant que quand il dit quelque chose, qu'il fait quelque chose, en face, les personnes peuvent être dans des logiques différentes et réagir. Là, typiquement, les Iraniens réagissent pour tester l'administration américaine. Et on a bien vu que la réponse diplomatique était assez floue. D'abord, parce que je me demande comment sont briefés les ambassadeurs, les responsables politiques, qui entendent ce que dit Trump au niveau national.
D'autant plus qu'il y a une fronde en ce moment du côté des ambassades américaines. Hein,
contre le président. 200 diplomates, 200 ambassadeurs. Vous imaginez en France aujourd'hui si plusieurs dizaines de diplomates français signaient une pétition pour dire François Hollande fait n'importe quoi.
Ouais, donc voilà, c'est pas la première fois que l'Iran teste un missile nucléaire, y compris après un missile balistique, l'accord nucléaire. Mmh. Et d'ailleurs, l'accord sur le nucléaire, il prévoyait un maintien des sanctions relatives au programme balistique. Donc, les puissances occidentales avaient bien vu le danger du programme de prolifération balistique de l'Iran, et ils font en sorte qu'il soit contenu. Donc là, il a été évoqué des sanctions supplémentaires visant des personnes, mais il y a déjà un régime de sanctions très important.
Ouais, n'empêche, quand Trump, à propos de ça, dit « rien n'est exclu », en face, en effet, que faire quand on est diplomate? Rex Tillerson, il est arrivé, ça y est, effectivement, donc à la tête du département d'État américain cette semaine, l'ancien patron d'Exxon dont vous parliez, Pierre Servant et Jean-Christophe Ploquin. Bon, il va falloir qu'il se glisse entre les gouttes de cette politique fluctuante où finalement les alliés d'hier de Trump sont finalement les opposants. Alors, vous avez cité Moscou, l'ambassadrice américaine, j'ai cité Israël, il y a eu ce coup de sang aussi avec le Premier ministre australien, il paraît, enfin c'est la presse américaine qui le rapporte, il a pris le Premier ministre australien au téléphone, et puis au bout de quelques minutes, il a raccroché, clairement, parce qu'il n'était pas d'accord sur ce qu'il lui disait sur la politique migratoire dans le Pacifique. Pierre Servant, sacré job pour Rex Tillerson.
Ah oui. Non, ça va être très très difficile pour eux. Et déjà, lors de sa très longue audition devant les commissions du Congrès pour être investi, il était en décalage avec ce que disait Donald Trump. La difficulté pour Trump, c'est qu'il a, c'est un personnage qui a passé sa vie sans doute à faire du bilatéral, c'est-à-dire à nouer des deals à deux. Ce qu'il a du mal à comprendre, c'est que la personne qu'il a en face de lui a des alliés. Quand il tape sur l'Iran, la Russie n'est pas contente. Or, la Russie, il veut s'en rapprocher par ailleurs.
Donc, quand il tape sur l'accord du nucléaire iranien, il oublie juste qu'il y a derrière la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Russie. Voilà, il n'y a pas que les États-Unis et l'Iran.
Et que c'est quand même un facteur de stabilité. Et que le problème, c'est que Benjamin Netanyahou, qui est en difficulté politico-judiciaire dans son pays, et qui a beaucoup joué sur la peur et la menace pour souder une partie de son électorat autour de lui. Ça fait partie de ce que j'ai appelé les personnages imprécateurs et messianiques autodésignés qui, justement, cherchent à créer des...
Ça, c'était dans le précédent opus. Extension du domaine de la... Toujours d'actualité, malheureusement. Oui.
Il sort en poche.
Oui, bien sûr. Ouais,
enfin, ce n'est pas pour faire la promotion pour mon livre.
Si,
mais évidemment, Benjamin Netanyahou peut essayer de profiter de ça pour reprendre la main sur le plan politique. Donc voilà. Donc ce qui est très préoccupant, encore une fois, c'est qu'on a un monde très fracturé, avec ce que j'ai appelé une envie de barbarie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de libération par rapport à l'envie d'employer la force, et que Trump, première puissance militaire du monde, par son langage, déverrouille encore plus de capacité à se dire, à partir du moment où je commence à vous insulter, l'étape d'après, vous cassez la figure, l'étape d'après, c'est vous tuer. C'est cette glissade qui est extrêmement dangereuse.
Un mot, et puis on aborde la question des décrets anti-immigrés aussi.
C'est vraiment un homme de médias, c'est un homme qui a fait de la télé-réalité, et donc dans sa façon aussi de s'adresser au monde, il continue à jouer sur ces ressorts-là, qui sont des ressorts absolument pas diplomatiques.
Alors, on revient donc sur cette... énorme polémique qui n'a cessé d'enfler tout au long de la semaine contre les décrets anti-immigrés, anti-réfugiés pris par le président américain Donald Trump.
Nous voulons être certains que nous ne laisserons pas entrer dans notre pays les mêmes menaces que celles que nos soldats combattent à l'étranger. Nous voulons seulement accepter ceux qui nous soutiennent et nous aiment profondément. Nous n'oublierons jamais les leçons du 11 septembre, ni les héros qui ont perdu la vie au Pentagone. Ils étaient les meilleurs. Nous les honorerons, pas seulement avec des discours, mais avec nos actes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Alors, ce qui fait, hein, c'est l'interdiction donc à tous les réfugiés, quelle que soit leur origine, pendant 120 jours. Hein, interdiction aussi pendant 90 jours aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen. Vous les avez vus à la télévision, ces scènes de détresse dans les aéroports américains, mais pas que, hein, aussi aéroports ailleurs, hein, justement, avec des personnes bloquées, avec ou sans visa, avec ou sans carte verte, hein, des couples séparés. Protestation en rafale venue du monde entier, les pays concernés, bien sûr, ces pays musulmans, le Canada, l'Europe, Angela Merkel.
La lutte nécessaire et résolue contre le terrorisme ne justifie en aucune manière de généraliser le soupçon contre les personnes en fonction de leurs croyances, en l'occurrence ici des personnes de foi musulmane, ou en fonction de leur origine. Cette mesure contredit selon moi les principes fondamentaux de l'aide internationale aux réfugiés et ceux de la coopération internationale.
Oui, mécontentement également de grosses boîtes américaines, la Silicon Valley, dont des champions ont été créés par des immigrés ou des fils d'immigrés, hein, Google, Uber, Facebook, Apple, des grandes banques, Goldman Sachs, JP Morgan, des entreprises comme Starbucks, Walmart, beaucoup craignent, hein, j'allais dire, alors d'une part une ombre portée sur l'image du pays, donc l'attractivité, puis le fait de ne plus pouvoir recruter bien leur main-d'œuvre. Une quinzaine de grands patrons d'ailleurs étaient reçus ce vendredi par Donald Trump. Jean-Christophe Loquin,
Je trouve très intéressant que vous fassiez le lien entre la dimension économique et puis effectivement le fameux décret. Ouais. Parce que je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un package. Finalement, le décret, effectivement, il envoie un message, on va dire, anti-musulman. Il désigne pas un axe du mal, comme a fait Bush en disant Corée du Nord, Irak, Iran. Il est un peu, et je n'ose pas dire plus subtil, il désigne pas une religion. Mais tout le monde a compris qu'effectivement, c'était quand même l'islam qui était derrière. Et c'est vrai que c'était un message désastreux, à la fois par rapport à la protection des réfugiés, qui est une règle internationale qu'un grand pays démocratique comme les États-Unis doit respecter. C'est une bévue par rapport à des pays alliés, comme l'Irak, justement, dont des ressortissants, on va dire, très pro-américains, tout à coup, étaient interdits d'aller dans ce pays. Mais c'est aussi le message, donc, qui est un petit peu différent, qui n'est pas lié à ce décret strictement... considéré, mais qui est plutôt par rapport à d'autres mesures qu'il a annoncées et qui visent à finalement sanctionner, ponctionner, taxer le travailleur étranger, y compris surdiplômé qui va venir. Et c'est là qu'on voit qu'au-delà de son message par rapport à l'islam, on rejoint un thème beaucoup plus large qui est la protection de l'Amérique, America first, les travailleurs américains les premiers, et c'est là qu'effectivement il heurte de plein fouet les intérêts, notamment de la Silicon Valley.
Et il se prévaut de son élection en permanence. Voilà, le peuple a voté pour lui, il a été élu démocratiquement.
Mais comme vous l'avez mentionné, cette réunion des 15 chefs d'entreprise multinationales ce vendredi, vraiment, c'est un signal très clair. Dire, nous lutterons contre votre vision des choses.
Ouais, et c'est allé crescendo, hein, avec le limogeage aussi de la ministre de la Justice par intérim, hein, nommée par la précédente administration, qui refusait justement ce décret anti-immigré. Et puis même Barack Obama, qui est sorti un petit peu de sa retraite via son porte-parole, hein, qui faisait part de son désaccord fondamental avec la politique migratoire de Donald Trump. Un mot quand même, parce qu'on a entendu Donald Trump, qui met en avant le terrorisme, qui cite le 11 septembre. Moi je veux bien, le 11 septembre c'était des Saoudiens, Pierre Servant.
Oui,
le marathon de Boston, c'était des Américains d'origine russe ou des Russes russes sur le territoire américain. San Bernardino, c'était une famille d'origine pakistanaise. Pourquoi ils visent ces pays? Enfin, c'est justifié ou pas?
Non, absolument pas. Enfin, c'est vraiment, c'est totalement contre-productif par rapport à l'objectif qui se donne. C'est-à-dire que ça ne peut qu'encore aviver les tensions ou l'hostilité aux Américains. Donc, c'est un président qui, par ses actions-là, je dirais, va aboutir à un résultat contraire à ce qu'il veut. Et puis, c'est totalement arbitraire, vous l'avez dit, puisque des pays qui pourraient être dans le collimateur un peu plus ne le sont pas. D'une part, parce que l'Arabie Saoudite est un allié traditionnel depuis plus de 60 ans. Aussi, les mauvaises langues disent, parce que la société Trump a des affaires avec l'Arabie Saoudite. Donc, par quelques bouts qu'on le prenne, c'est absurde.
Et puis, quand on voit les terroristes qui ont frappé en France ou en Belgique, ce sont des Français? Voilà. Et les Belges, voilà aussi. Donc.
Alors, encore une fois, bon, il est soutenu par une bonne partie de la population. Il a raison de vouloir lutter contre l'islamo-terrorisme, qui est une énorme menace, et qu'on a devant nous pour plusieurs décennies.
Et on l'a encore vu ce vendredi à Paris aussi. Voilà.
Donc, raison de plus pour être un peu intelligent là-dedans. Et je voudrais prendre juste un détail pour montrer à quel point c'est pernicieux, c'est blessant, c'est déstabilisant, et c'est susceptible de réveiller des vocations agressives contre les Américains. Par exemple, le cas des interprètes. J'en parle parce que je les ai pratiqués en Afghanistan
quand j'étais officier. Sur le terrain, bien sûr, avec les soldats, bien sûr.
Absolument. Et ce sont des personnes remarquables qui risquent leur peau sur le terrain. Oui. D'une part, parce qu'ils sont engagés, ils sont embedded avec les militaires occidentaux.
Donc avec les collaborateurs, voilà, comme collaborateurs.
Leurs familles, souvent, sont menacées par les talibans. Je prends le cas de l'Afghanistan. Et ils se retrouvent aujourd'hui en France, aux États-Unis, pardon, et certains devaient faire venir leurs familles qui se trouvent. Donc vraiment, c'est le cœur américain, parce qu'il y a vraiment, comment dirais-je, chez ces interprètes, une volonté de rentrer dans le système américain. Donc, par quelque bout qu'on le prenne, c'est vraiment une catastrophe.
Quand ils renvoient la ministre de la Justice par intérim, bon, alors évidemment, elle a failli, puisqu'elle ne veut pas appliquer la règle, peut-être, mais est-ce qu'il y a un début d'indépendance de la justice qui est mise à mal, d'atteinte à la séparation des pouvoirs ou pas, Jean-Christophe
Choquin? Je ne crois pas, parce que personne qui était vraiment là en attendant la nomination de son successeur par l'administration. Mais en revanche, il y a des juges fédéraux qui, eux, sont totalement indépendants et on va dire intouchables par
qui ont redonné leurs droits
aux réfugiés. Qui ont déjà décidé de s'inscrire en contre.
Un mot encore sur la nomination très attendue du juge manquant de la Cour suprême. Hein, sans surprise, c'est un très conservateur donc, qui a été désigné par Trump, le juge Neil Gorsuch, hein, 49 ans, haut magistrat dans le Colorado. Il doit être maintenant validé par le Sénat. Il aura une Cour suprême à sa couleur, Donald Trump, très conservateur. Un mot chacun.
Il doit être validé par le Sénat et les démocrates ont dit qu'ils s'opposeraient. Et les républicains n'ont pas forcément la majorité nécessaire pour faire valider cette nomination. Ça va sans doute être une grande bagarre parlementaire.
Pierre Servan. Risque derrière, effectivement, si ça n'est pas validé, qu'il y ait une modification du seuil des 60 pour redescendre à 50, puisqu'ils sont 52 pour les républicains. L'autre point qui est compliqué, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un conservateur Kennedy qui est progressiste, entre guillemets, sur les questions sociétales. Et donc, qui ne vote pas avec les conservateurs, donc c'est pas aussi calé et cadré que ce qu'on peut penser.
Bon, on va retrouver Pierre Servan dans un instant, le spécialiste des questions de défense. On va retrouver Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix et qui anime le blog Paris Planète. Hein, à suivre, eh bien, le seul porte-avions français, le Charles de Gaulle, hein, eh bien, en grande révision pendant un an et demi. On redémarra avec ça. Et puis, semaine de guerre assez dure hein, dans l'Est de l'Ukraine, 7 jours dans le monde. On revient sur BFM Business à la télé et à la radio.
BFM Business, 7 jours dans le monde. BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, l'information internationale sur BFM Business commentée, vous savez, tous les week-ends avec aujourd'hui Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix qui anime son blog Paris Planète hébergé sur le site de La Croix. Et puis Pierre Servan, donc on le rappelle, son roman, tiens, profitez du week-end, Le Testament Aulique, A-U-L-I-C-K. Alors tiens, justement, chaque jour, chaque nuit ou presque, hein, des rafales français frappent Daesh, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, des appareils français qui décollent soit d'Abu Dhabi, soit de la Jordanie, soit du porte-avions Charles de Gaulle. Alors justement, voilà, il va falloir se passer de l'unique porte-avions français, le Charles de Gaulle. Pierre Servan, le joyau de la flotte française, il part en grande révision, normalement à partir de la semaine prochaine, hein, à Toulon, pour 18 mois. Pourquoi une grande révision comme ça? Ça sert à quoi?
Parce qu'il faut, je dirais, reprendre l'ensemble du bâtiment. Il y a bien sûr la chaudière nucléaire qui demande régulièrement des révisions, mais c'est pas que cela, parce que ça c'est assez habituel pour ce type de bâtiment. Mais il y a toute une série de modernisations qui doivent être implémentées à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est vraiment l'ensemble du bateau qui est repris, qui est modernisé sur le plan des communications, de la technologie intérieure,
de l'armement,
de tous les problèmes d'appontage, etc. Donc voilà. Donc c'est un énorme carénage, enfin, c'est plus qu'un carénage, c'est un arrêt majeur. Et effectivement, c'est embêtant, puisque le choix qui avait été fait par Nicolas Sarkozy, puisque le débat s'était posé avant la présidentielle de 2007, deuxième porte-avions ou pas, qui aurait été un porte-avions à propulsion classique,
oui, hein,
à
pas côté, nucléaire,
ouais. De façon à ce que la France n'ait pas un trou dans sa raquette, sachant que on dit souvent que le porte-avions, c'est un tonnage absolument considérable de diplomatie militaire, c'est aussi un bras de levier militaire, mais quand la France envoie son porte-avions en propulsion nucléaire, sachant que seule la France et les États-Unis ont un porte-avions à propulsion nucléaire, ça a un poids extrêmement fort. Donc là, effectivement, on ne l'a pas dans la main, c'est ainsi, puisqu'on n'a pas de deuxième porte-avions.
Vous dites que c'est un trou dans la raquette, vraiment c'est un handicap pour la défense française. Qui va prendre le relais pendant ces 18 mois?
Alors, l'armée de l'air a tout à fait capacité à suffisamment de projection de force, de ravitaillement en vol pour frapper un peu partout dans le monde. Ils l'ont montré notamment lors de la campagne de Libye. Vous avez eu des raids partant de France pour les frapper en Libye. Chose tout à fait extraordinaire avec des ravitailleurs en vol. Donc, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas entravés. La France, sa capacité de frappe n'est pas diminuée. Mais je dirais que c'est vraiment l'ensemble de ce que signifie le porte-avions propulsion nucléaire. C'est ce qu'on appelle le groupe aéronaval. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'autour du porte-avions, vous avez des bâtiments sous-marins nucléaires d'attaque qui jouent un rôle très important en matière de renseignement. Donc, eux continuent évidemment à faire leur mission. Mais effectivement, c'est un moment un peu compliqué pour la France. Et du côté britannique, qui avait abandonné leur porte-avions, ils remontent, mais ils n'ont pas encore...
Parce qu'il y avait ce projet quand même de faire avec le Royaume-Uni un porte-avions en commun franco-britannique.
Tout à fait. Ouais. Et puis c'est tombé finalement parce que les intérêts sont pas totalement convergents. Et puis notamment parce qu'il y a une différence dans le type de... Nous, on a des avions qui appontent, qui sont catapultés. Ouais. Les Britanniques restent sur des avions à décollage vertical sur leur porte-aéronef.
Arrière, c'est ça. Ouais.
Voilà, les arrières, alors modernisés, je pense qu'ils ont dû en changer. Mais voilà, donc c'est pas exactement le même modèle. Donc on n'a pas pu déboucher là-dessus. Donc voilà, c'est quand même un peu un trou dans la raquette.
Ouais, Jean-Christophe Ploquin, il faut construire, il faut acheter un second porte-avions.
Alors, est-ce qu'on accepte le fait que la France n'a pas les moyens de bâtir un deuxième porte-avions nucléaire, ou est-ce qu'on cherche, et si oui, est-ce qu'on cherche d'autres options? Et donc, c'est là aussi la tarte à la crème de la défense européenne. Mais est-ce qu'il y a un effort convergent de l'Allemagne qui commence à être de plus en plus sensible aux questions de défense, de l'Italie qui est
l'Allemagne qui se renforce, hein, ils ont 1,4% pour l'instant du PIB consacré à la défense. L'idée annoncée par Mme Merkel jusqu'à 2%.
Ils vont bientôt dépenser plus que la France.
On est à 8 à peu près.
Très très loin, et ils n'ont pas encore beaucoup de force de projection, donc ils ont beaucoup de dépenses à faire pour s'adapter aux menaces d'aujourd'hui. Mais je pense aussi aux Italiens, ils ont des chantiers navals très 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 bons.
Fincantieri, ceux qui ont racheté STX à Saint-Nazaire.
Donc voilà, on voit bien qu'il y a du potentiel en Europe pour faire converger les forces et les moyens, et éventuellement avoir un porte-avions commun.
Ouais. Alors, zone de guerre également, on part dans l'est de l'Ukraine, justement dans le Donbass, la ville de Avdiivka, donc contrôlée par Kiev, on est à 10 km de Donetsk. Hein. Scène de guerre depuis le début de la semaine entre soldats ukrainiens et rebelles pro-russes avec des attaques, des coups de feu et puis des tirs de missiles également. Une vingtaine de morts, des civils, des militaires. Pire bilan dans la région depuis un an, dans une région qui grelotte. On est à moins 20 degrés, pensez donc aux populations civiles. Qui a rompu la trêve, Kiev, Moscou se renvoie la responsabilité. Violence qui surgissent, un mois après la conclusion d'un cessez-le-feu qu'on avait annoncé comme définitif, Pierre Servent.
Alors rien n'est définitif dans la zone, parce qu'en plus les deux pays, l'Ukraine et la Russie, ont aussi des agendas propres et jouent un peu avec le feu autour de cette zone. Là en l'occurrence, il semblerait que Kiev porte une partie de la responsabilité avant les combats dans la ville que vous avez citée, en ayant repris dans le No Man's Land un certain nombre de villages que convoitait, enfin en tout cas qui devait normalement rester dans une position de neutralité. Et puis par ailleurs, on prête à Poutine la volonté en ce moment de tester aussi comment ça va réagir à Washington
en
relançant le processus. Donc évidemment, et ce que vous avez dit est très juste, c'est que la résultante de tout ça, comme toujours depuis maintenant des décennies, c'est les civils, les femmes et les enfants qui se retrouvent à nouveau dans des situations...
Que ce soit à Mossoul, à Alep ou à Avdiivka. Voilà. Alors, quelle
suite? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre en ce moment, en tout cas.
Les suites du processus, on revient avec vous dans un instant, Jean-Christophe Ploquin, mais le président Porochenko, président ukrainien.
Il est certain que nous avons besoin de trouver des arguments décisifs pour convaincre la Russie de s'asseoir à la table des négociations pour pleinement mettre en œuvre l'accord de Minsk. Si ce n'est pas le cas, alors nous croyons que non seulement les sanctions doivent être maintenues, mais que le cas échéant, elles doivent être accrues.
Le président ukrainien Poroshenko, oui, Jean-Christophe Ploquin de La Croix. Donc les Ukrainiens, ils ont des raisons de s'inquiéter. Ou alors ils en rajoutent un petit peu, comme Moscou le laisse entendre, histoire bon, d'attirer quelque part les regards sur eux.
Bah, un point supplémentaire par rapport à ce que disait Pierre, il y a l'enjeu des sanctions. Ouais. Et on sait que donc il y a des sanctions américaines et européennes notamment qui pèsent très lourd contre la Russie et qui sont liées au dossier ukrainien. Or, on sait qu'il y a des pays européens qui poussaient pour qu'il y ait une levée de ces sanctions. Et donc, je dirais que réchauffer un petit peu le front, c'est une façon aussi d'orienter un petit peu la discussion quand elle aura lieu à nouveau sur le maintien des sanctions.
Ouais, Pierre Servant.
Tout à fait. Et ça, à un moment où Poroshenko, disons, le pouvoir ukrainien est un peu dans le collimateur aussi des Européens en termes de corruption, népotisme, etc.
Ça ne bouge pas beaucoup en Ukraine.
Ça ne bouge pas. Et donc, c'est évidemment un allié, mais il faudrait qu'il fasse des efforts de son côté. Et tout cela avec, en même temps, toujours cette crainte des pays baltes de la Pologne. La France, vous en parliez, est très active dans le ciel des pays baltes en ce moment. Jean-Yves Le Drian a rappelé qu'il y aura des éléments au sol en Estonie très, très prochainement, dans ce travail de réassurance de ces pays. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que Moscou n'a absolument pas l'intention d'envahir l'Europe de l'Ouest en envoyant des divisions blindées. C'est absolument pas dans le projet de Poutine. Poutine est beaucoup plus subtil que cela. D'abord, ça coûte cher, la guerre. C'est assez tragique, mais dans ce qui empêche un certain nombre de pays aujourd'hui de faire la guerre, de rentrer véritablement dans le vif du sujet à fond, c'est l'argent. C'est le fait que le nerf de la guerre qui manque un peu partout, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens. Entre la Chine et les États-Unis, on est encore dans une balance de 1 à 3 en termes de puissance militaire. Ceci dit, ça évite pas les accrochages et les dérapages. Donc là, effectivement, pour Poutine, le jeu, c'est plutôt de terroriser, d'avoir une politique d'emprise psychologique sur ces États, et derrière, d'avoir une influence en jouant notamment sur les minorités russophones qu'on trouve dans une partie de ces régions.
Un mot, Jean-Christophe Ploquin, on ira juste à côté de l'Ukraine, la Roumanie dans un instant.
Un grand objectif stratégique de Poutine aussi, qui est de fragmenter l'Union européenne, les Européens, de diviser les Européens entre eux, et sur l'Ukraine, c'est l'un des leviers.
Convergence avec Trump, voilà. et le futur ambassadeur peut-être des États-Unis auprès de l'Union européenne, qui expliquait que l'Union européenne, c'était l'Union soviétique. Et tout ça, le seul point positif, c'est que l'Union européenne se réveille. On va arriver au 60e anniversaire du traité de Rome dans quelques semaines.
57,
voilà, là, nous sommes au pied du mur. Il faut que les 27...
Notamment sur la question de défense.
Absolument.
Tout juste, oui. Alors, justement, on va dans un pays de l'Union européenne. On est à l'ouest, un pays frontalier de l'Ukraine, c'est la Roumanie, qui descend dans la rue avec des manifestations fleuves, du jamais vu depuis la chute de Ceausescu en 1989. Rendez-vous compte, des centaines de milliers de personnes dans les grandes villes du pays, à Bucarest, à Timișoara, à Sibiu, je ne vais pas faire toute la liste, à Cluj également, contre un décret qui assouplit donc le code pénal et la législation anti-corruption. Ces manifestants.
Le gouvernement a peur. C'est pour ça que je pense qu'on a une chance de réussir. Car s'ils passent des ordonnances à 10h du soir, ils ont clairement peur. C'est incroyable de voir tous ces gens venus avec le dernier métro ici, alors que demain, on a des examens et on va au travail. La démocratie sera défendue.
Ouais, on entend des voleurs, traîtres, rendez l'argent en prison. Alors le gouvernement, il campe sur ses positions avec son fameux décret. Le but, dit-il, je le cite, c'est de désengorger les prisons. Voilà, très bien. Mais la population, elle y voit évidemment un retour en arrière, dans un pays qui est miné par la corruption, Jean-Christophe Ploquin. Donc c'est un mal endémique. En 3 ans, il y a eu 1200 personnes condamnées. Ils avaient détourné chacun, le préjudice s'élevait quand même à 1 milliard d'euros. C'est pas rien quand même,
ce
pays.
Bravo les Roumains quand on peut saluer vraiment ce mouvement populaire très spontané, mais qui va sans doute durer. Ensuite, effectivement, comme vous disiez, la corruption, c'est un mal continu. Il y a vraiment des institutions qui se sont mises en place sous la pression de l'Union européenne. Il y a des juges anticorruption, il y a vraiment une administration anticorruption avec des gens très forts, très puissants, indépendants du pouvoir politique. Donc en ce moment, on est vraiment dans une confrontation entre les politiques dans leur majorité qui veulent continuer leurs petites affaires, et puis l'opinion et cette administration anticorruption qui, elle, essaye de faire le ménage. Mais effectivement, il y a une instabilité politique en Roumanie depuis des années à cause de ces affaires de corruption.
Et à tel point
les premiers ministres tombent les uns après les autres à cause de ça.
Et oui, à tel point que le président de la Roumanie a marqué ses réserves, justement, son désaccord avec le décret.
Exactement.
De son propre gouvernement.
Alors, sachant que le chef du gouvernement, lui, a pris ce décret à titre presque personnel.
Tout juste,
ça le concerne juste personnellement.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Et alors là, l'enjeu aussi de la pression européenne va être très très fort.
Ah, on va
en
parler.
Là que si la Commission, si les 27 autres pays n'acceptent pas ça, ça va faire bouger les choses.
Ouais, parce qu'il y a d'autres pays européens qui en effet qui ont protesté contre ce fameux décret anticorruption en Roumanie. Protestation venue de Paris, de Berlin,
un communiqué commun,
de Bruxelles,
c'est très fort. Et même des États-Unis.
De la Commission européenne ouais, également. Ouais. Pierre Servent.
Oui, oui, effectivement, c'est tout à fait sidérant. Donc le point négatif, c'est le fait de voir un certain nombre de pays européens qui sont traversés par des violences, des tensions, des tentations en termes de corruption. Le côté positif, c'est effectivement cette mobilisation populaire. Et derrière tout ça, je trouve qu'il y a vraiment un enjeu sur les valeurs. À une époque où justement le discours ambiant trumpiste et autres est sur il n'y a pas de vérité, tout est relatif, etc. Derrière tous ces combats-là, il y a vraiment savoir quelles sont les valeurs de l'Europe, qu'est-ce qui nous réunit. Et là aussi, le Brexit, qui est pour moi une très mauvaise nouvelle, la seule partie bonne, c'est de nous questionner en disant qu'est-ce qui nous réunit, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent. Je pense aussi à ce qui se passe en Hongrie.
Ah bah c'est ce que j'allais dire, bien sûr.
Il y a quelques jours
vous
le sommet.
Vous nous dites tout ce qui nous rassemble, mais on voit quand même un certain nombre de pays qui jouent quelque part avec l'état de droit, la remise en cause de l'état de droit.
Oui, même en
Bucarest,
Pologne.
Bucarest, la Roumanie, alors vous citez Budapest cette fois, donc la Hongrie, la Pologne
ouais.
Et des gouvernements finalement de couleurs différentes. On a des gouvernements de droite en Pologne et en Hongrie, un gouvernement centre-gauche à Bucarest.
Oui, et il faut regarder le détail. Il y avait un excellent papier dans le monde sur le fait qu'en Pologne il y avait une remise en question du musée de la Seconde Guerre mondiale, vouloir réécrire l'histoire pour la rendre conforme à l'idéologie du pouvoir. Vous voyez jusqu'où va le détail. C'est Alain Frachon qui a fait un papier et vraiment je trouve que c'est là les journalistes, pour peu qu'on lise La Croix, d'autres quotidiens, qu'on suive vos émissions, etc., il y a de la matière et de voir
quelle
comment
était la position des Polonais pendant la guerre. Voilà cette remise en cause.
Voilà exactement. Et donc ça veut dire quoi? C'est que le combat aujourd'hui, c'est vraiment un combat entre les partisans de l'altérité, d'une certaine recherche de vérité, si tant est qu'elle existe, mais en tout cas, ne pas vouloir trafiquer, avoir une honnêteté intellectuelle par rapport aux événements et à l'actualité, et de l'autre côté, l'idée que l'idéologie prime, et que où on est dans l'idéologie, où on est dans la traîtrise. Et ça, c'est vraiment un combat international.
C'est un sujet de préoccupation, là, au sein de l'Union Européenne, cette remise en cause de l'état de droit.
La semaine dernière, j'ai passé 5 jours en Pologne, à Cracovie, à Varsovie, rencontré beaucoup d'homologues et d'observateurs. Le monsieur Kaczynski, qui n'est ni Premier ministre, ni président.
Il est le chef du parti.
Et c'est le chef du parti, c'est lui qui tient les ficelles, qui est un opposant de Lech Walesa, alors qu'ils étaient tous les deux ensemble à Solidarité, le syndicat Solidarność. Il veut imposer une nouvelle vision, il veut réécrire l'histoire de son pays, et c'est effectivement très dangereux. Et du coup, ça crée, il est donc contre M. Donald Tusk, qui est l'actuel président du Conseil européen, et donc cette querelle interne polonaise, finalement, conduit effectivement à fragiliser toute l'Union européenne.
Donald Tusk, qui est donc polonais, et qui est un personnage très intéressant. Il faut lire ses articles et ses prises de position. C'est une grande auteure intellectuelle.
À suivre dans 7 jours dans le monde, un revenant donc au sein de l'Union africaine, le Maroc après 32 ans de politique de la chaise vide. 7 jours dans le monde revient sur BFM Business avec Jean-Christophe Ploquin et avec Pierre Servent.
BFM Business, 7 jours dans le monde. BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pendant encore quelques minutes avec Jean-Christophe Ploquin de la Croix et Pierre Servent donc avec nous, l'actualité internationale de la semaine dans 7 jours dans le monde. Lundi, Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, siège de l'Union africaine qui tenait son 28e sommet. Et avec un grand retour, celui du Maroc après 32 ans d'absence, Sa Majesté le roi Mohamed VI.
Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille.
Voilà, le roi du Maroc qui s'exprime en français, donc, devant cette assemblée, donc,
de l'Union africaine à Addis Abeba. Oui, rappel, 1984, hein, Rabat qui avait déserté, à l'époque c'était l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, pour protester contre l'admission dans ce cénacle de la République arabe sahraoui démocratique. Alors pour faire simple, c'est le Sahara occidental, cette ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc en 75, est revendiqué par le Front Polisario. C'est un très vieux dossier, Jean-Christophe Ploquin.
C'est un très vieux dossier qui est toujours présent, c'est-à-dire il est toujours pas résolu. Le Maroc continue à revendiquer sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le Front Polisario continue à réclamer un référendum en estimant qu'il le gagnerait pouvoir proclamer son indépendance. Front Polisario soutenu à 100% par l'Algérie, qui voit un moyen d'affaiblir son voisin, le Maroc.
Son rival, le Maroc. Donc, voilà, faut rappeler que les frontières avec le Maroc sont fermé, hein,
oui, exactement. Algérie, Maroc, tout à fait. Donc voilà, vraiment un cercle vicieux, très dommageable pour la région, très dommageable pour la population marocaine, la population algérienne et pour le Maghreb, puisque ça fige, ça empêche toute unification, toute démarche commune finalement des pays du Maghreb.
Alors il y avait des résistances au sein de l'Union africaine, hein, justement pour bloquer le retour du Maroc.
L'Afrique, on verra dans un instant.
Alors l'Afrique du Sud,
l'Afrique du Sud, bien sûr.
L'Angola, donc, qui sont très anticolonialistes.
C'est
l'Algérie également. Tous ces pays qui soutenaient les Sahraouis et qui finalement ont levé leur réticence.
Oui, alors il fallait déjà qu'il y ait cette démarche du Maroc, c'est-à-dire reconnaître que, entre guillemets, la politique de la chaise vide, ça ne marchait plus. Les absents ont toujours tort. Quand vous n'êtes pas dans une enceinte où il y a tout le reste du continent, eh bien forcément, il y a des choses qui se passent et sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc le choix du Maroc a été de réintégrer l'Union africaine. Je pense que c'est une bonne idée. Mais il faut l'inscrire finalement dans une démarche beaucoup plus globale du Maroc et assez remarquable. Le Maroc est à la fois tourné vers l'Europe et c'est l'un des grands partenaires de l'Union européenne, mais en même temps il s'est tourné vers le continent africain et il mène une diplomatie économique. C'est le deuxième investisseur en Afrique aujourd'hui, le deuxième investisseur africain en Afrique, et il est présent pas seulement dans les pays francophones, il y a une diplomatie aussi militaire avec soutien à certaines opérations et une diplomatie religieuse puisque il est aussi, finalement il forme des imams pour répandre, on va dire, l'islam marocain, en tout cas un islam modéré
de qualité,
dans
entre
les pays
guillemets,
du Sahel et ailleurs. Et il y a aussi une diplomatie universitaire en accueillant beaucoup d'étudiants africains au Maroc. Donc le Maroc est vraiment en train d'utiliser l'Afrique comme un lieu d'expansion de son influence, renouant un peu avec son histoire, puisqu'il y a des centaines d'années, le Maroc, enfin l'ancêtre du Maroc en quelque sorte, était très influent dans la région sahélienne.
C'est fondamental ce qu'il vient de dire Jean-Christophe Ploquin, parce que c'est vrai que pour le Maroc, cette politique de la chaise vide, elle ne payait plus, justement. Il fallait de nouveau déboucher les échanges commerciaux avec la France et l'Espagne. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et on a vu Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'on a entendu il y a quelques instants, qui n'a pas ménagé sa peine depuis un an de faire des vastes tournées sur le continent africain. Pierre Servant.
Tout à fait. Jean-Christophe a vraiment bien, très très bien dessiné le paysage. Le Maroc est essentiel. Il est un trait d'union. Il est parvenu à gérer son début de printemps arabe de façon assez astucieuse en donnant une partie du pouvoir à des islamistes dits modérés. Je rappelle d'ailleurs qu'après les attentats de 2015, le président Hollande, vous aviez eu un froid avec le Maroc, qui était une stupidité. Je veux dire, vraiment, la France et l'Europe ne peuvent pas se payer le luxe d'un froid avec le Maroc.
Il y a eu un froid pour une histoire judiciaire avec, je crois, le ministre de l'Intérieur qui avait été limite arrêté à Paris, avenue Foch, pour une histoire de je ne sais plus quoi.
Bon, heureusement, les choses se sont remises dans l'axe, mais je suis allé au Maroc faire des conférences à cette époque. C'était encore une période de tension et de froid. Honnêtement, on ne peut pas se le permettre. Les Marocains, sur le terrain, dans un certain nombre d'opérations militaires, travaillent souvent aux côtés des soldats français et ils sont remarquables. Ça se passe très très bien. François Hollande, lors d'un voyage de réconciliation au Maroc, a passé aussi un accord, vous y faisiez allusion, sur le fait que les futurs imams français seront formés à l'islam du juste milieu au Maroc. Alors pourquoi? Parce qu'on est incapable de le faire en France. Mais au retour de leur cycle de formation, je crois, de 2 ans, ces futurs imams seront formés, compléteront leur formation à la Cato, à l'Institut catholique de Paris notamment, pour travailler sur le dialogue interreligieux. Il y a la lutte contre la radicalisation islamique sur Internet, etc. Donc c'est quelque chose de vertueux et d'important. Donc il faut absolument renforcer le Maroc. Et c'est vrai que là, son retour, c'est important. Donc il redevient 55e membre.
55e
mais
membre
il faudra
africaine.
Quand même aussi que ça puisse évoluer sur le Sahraoui, qui est quand même encore occupé à 80% par des forces marocaines. Ça n'est pas réglé. Dernier point sur ce dossier-là, c'est la présidence. que le Tchad récupère, enfin prend, si je puis dire, et montre que le Tchad joue un rôle absolument incontournable.
Une grosse armée de poids également très utile dans la lutte contre les islamistes au Sahel.
On le sait pas, et je le rappelle, on sait peut-être pas assez, mais je le rappelle, où se trouve l'état-major de Barkhane, le dispositif français, à N'Djamena. Et cet état-major français a aussi un rôle sur le Nigeria et la lutte contre Boko Haram en matière de renseignement. Donc vous voyez, voilà, c'est face aux forces de dislocation, c'est tout ce qui permet à des États de bonne volonté de travailler ensemble contre la fracturation du monde.
Ouais, juste un mot avant qu'on se quitte. Si l'Union africaine a réintégré le Maroc, est-ce qu'il faut y voir un renoncement aussi à voir émerger les mouvements de libération divers et variés, les droits à l'autodétermination?
Non, parce que
on ne s'assoit pas sur l'autodétermination du Front Polisario.
La République Sahraoui reste membre de l'Union africaine. Oui, donc voilà, c'est ça le deal qui a été trouvé, c'est que le Maroc a accepté de réintégrer une institution où il y a un mouvement qui nie finalement la souveraineté du Maroc sur cette région d'Afrique.
Pierre Servan, voilà, ça sera quasiment le mot de la fin.
Et pour Mohamed VI, c'est une prise de risque aussi par rapport à sa propre population qui a quand même été chauffée à blanc lors des années passées.
Par son père, notamment.
Par son père.
Avec la marche verte de Hassan II, évidemment, en 75.
Voilà, et par rapport aux critiques que nous formulons souvent vis-à-vis du Maroc ou d'autres pays, alors bon, quand il y a des choses qui ne vont pas, on peut le dire, mais il faut aussi intégrer la place de ces pays dans la géostratégie, dans le combat commun contre l'islamo-terrorisme, et prendre ces éléments en compte et plutôt renforcer ceux qui se battent que, je dirais, de leur tailler des croupières.
C'est passionnant. Merci à tous les deux. Merci Jean-Christophe Ploquin. Allez voir justement son blog Paris Planète, hébergé donc sur le site de La Croix. Il est rédacteur en chef du quotidien. Merci Jean-Christophe Ploquin. Et puis le testament holique signé de Pierre Servan, grand spécialiste des questions militaires, des questions de défense. 7 jours dans le monde, c'est fini sur BFM Business. J'ai hâte de revenir le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.